Vous comprenez? Moi, dans le fond, ça m'arrange de te les boucher. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. J'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aime bien les Belges, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ben, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers. Vous comprenez? Et puis, je leur prends leur argent aux bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux. Et que moi, je les aime, les animaux. J'ai pas droit à mort, vous comprenez? Un peu d'argent. Un boucher de temps en temps. Un peu de soleil. Et un peu d'amour.
www.libradio.org.
Voilà, donc nous reprenons le cours de cette émission en direct depuis le pavillon bleu à l'occasion de la soirée de soutien organisée par SOS Bastard, soirée de soutien à la Shop de Montréal. Qu'est-ce que la Shop de Montréal? En quelques mots, nous l'avions présenté lors d'un premier entretien avec Yacine. La Shop, c'est un centre autogéré qui se situe à Montréal, à Québec. Et c'est un centre autogéré qui contient la singularité d'avoir des habitants en plus que de proposer des événements culturels et de favoriser, bien entendu, le tissu sociétal, comme on dit, comme on a, salut Robert, comme on a l'habitude de dire. Ça veut dire que cet endroit, qui est implanté dans le quartier de Hochelaga, à Montréal, eh bien, permet à des gens de se rencontrer, des gens qui, a priori, ne se seraient pas rencontrés, autour d'événements culturels, mais pas que, également autour de petites activités, que ce soit une bouffe commune ou des petites choses comme ça. Cet espace est actuellement en péril, puisque la maison est en train d'être, a été mise en vente et que les habitants sont en train justement de se battre pour réunir les fonds nécessaires à acheter eux-mêmes, à réacheter eux-mêmes le lieu qu'ils occupent jusqu'à présent. Voilà pourquoi cette soirée a lieu ici. Et ça n'est pas une soirée unique, hein, c'est une tournée de soirée de soutien que SOS Bastard organise. On va peut-être pas faire le tour maintenant de cela, mais pour les auditrices, auditeurs internet et de la DAB de Fréquence Banane, eh bien, la référence se trouve sur le site www.libradio.org où le podcast détaillé de la tournée est disponible. Alors, au sommaire de cette émission, eh bien entendu que nous allons parler de Montréal. On a quelques petites choses à vous dire par rapport à Montréal, et notamment un petit jeu de société assez sympa qui s'appelle Come Over Montréal. C'est un jeu qui... tente, en tout cas encourage les gens à obscurcir les caméras de surveillance urbaine, on en reparlera tout à l'heure. Nous avons également quelques petites choses à te proposer, un programme, un agenda, et notamment celui de la Bibliothèque du Peuple, puisque tous les dimanches, la Bibliothèque du Peuple, en face du pavillon bleu, a sa permanence, et que demain, c'est une permanence qui est consacrée à un atelier découverte et pratique de Wikipédia, l'encyclopédie participative. Nous parlerons également de la RIE 3, puisque le lancement de la campagne contre la réforme de l'imposition des entreprises a été lancé jeudi, ici à Genève, depuis le café Gavroche. Et nous allons commencer avec un sujet qui s'appelle, enfin un sujet, une notion plutôt, devrais-je dire, le fréganisme, dont nous allons parler avec Pierre, qui est parmi nous. Merci Pierre d'être là, bienvenue à toi.
Merci, déjà. Merci de m'accueillir et bonjour à tous.
C'est un plaisir. Alors nous allons parler du fréganisme et je le dis d'ores et déjà, à la fin de cet entretien que nous allons avoir tout de suite, eh bien, nous allons retransmettre un podcast qui concerne un épisode de fréganisme, justement une récupération de déchets alimentaires comestibles qui a eu lieu à Bienne et qui a donné lieu à une dénonciation de la COP et à des peines totalement absurdes dont on parlera tout à l'heure. On écoutera le podcast d'une demi-heure en fin de notre entretien. Peut-être dire encore que ici, la soirée de soutien a cours jusqu'à minuit ce soir et que donc toutes les personnes qui sont derrière leurs ordinateurs, eh bien, nous les invitons à converger vers nous au pavillon bleu pour venir soit écouter, soit intervenir à l'émission ou tout simplement pour manifester une solidarité avec la Shop, donc ce centre culturel autogéré. Au programme, tout de suite, c'est le tournoi de ping-pong. Il y a également des crêpes à disposition, il y a un bar, l'entrée est à prix libre en soutien de la Shop. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, tout cela préfigure les concerts du soir que l'on ne présente plus puisque c'est Maniaco Boîte à Rythme qui va normalement a priori dès 20h faire trembler les murs du pavillon bleu, suivi de Coal Black Horses, une toute nouvelle formation, un one man band, ex-Banzai, donc que l'on va découvrir tout à l'heure après en deuxième partie de soirée. Mais revenons à notre sujet, à notre premier sujet, en ta compagnie Pierre, le fréganisme. Alors, je vais tout simplement te demander déjà de te présenter un petit peu plus précisément, sachant que tu fais notamment partie du ROC, le réseau d'objecteurs de croissance. Je pense que c'est intimement lié du fréganisme, quelque part. Qu'en dis-tu?
Oui, bien sûr. l'objection de croissance et friganisme, à mon avis, vont tout à fait ensemble. Donc, se poser des questions par rapport à une croissance infinie et une remise en question de cette croissance infinie, bah, un des moyens de le faire concrètement, c'est le friganisme. Alors, je pense... Enfin, tu me demandais de me présenter.
Voilà, moi. Exactement, ton parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a mené, tu vois, ouais, à ce d'accord. constat okay. ouais. Non seulement au constat, parce que c'est effectivement...
À la pratique.
Voilà, exactement.
Ouais, ouais,
exactement.
Ouais. Alors, déjà, peut-être préciser, hein, ça ne se voit pas à l'antenne, mais j'ai des cheveux gris, voire blancs, donc j'ai 67 ans, 3 enfants, 5 petits-enfants, donc voilà. Et je suis frigan. À part ça, très très brièvement, toujours, enfin toute mon enfance et mon adolescence à Genève, vécu à Genève, et puis après voyage en Amérique latine, 5 ans, entre autres à la campagne, dans un groupe autochtone, hein, indien on va dire, et 2 ans au total là-bas, retour en Europe, après, enfin bon voilà, quelques études. L'Afrique du Nord, 1 an et demi en Libye, à Tripoli, à l'époque où il y avait Kadhafi. C'était son début, donc il n'était pas encore, enfin tout au moins, c'était pas encore un dictateur sanguinaire. Et puis l'Afrique australe avec la Croix-Rouge, 2 ans, 3 ans, la fédération, enfin la ligue à l'époque.
D'accord. Ouais, ouais.
Et au Mozambique, qui était aussi une expérience marquante dans le sens du friganisme. Et puis, parce que le Mozambique, à l'époque, qui vivait une situation très, très difficile, avec aussi une autre situation propre. J'avais 2 enfants, on avait 2 enfants à l'époque là-bas. En tant qu'expatrié, ben, on ne vivait pas ce que vivaient les Mozambicains. Mais d'un autre côté, il y avait le strict minimum. Donc on avait la nourriture, mais aucune diversité, rien de particulier. Et un des éléments, c'est qu'on vit très très bien comme ça, avec une seule sorte de yogourt, une seule sorte de pain, une seule sorte d'œuf, et voilà quoi.
Ouais. Est-ce que justement, on n'a pas, d'une certaine manière, une sorte de pléthore de façades, un choix démesuré un peu de façade ici en Occident, selon toi ?
Oui, bien sûr. Non, mais c'est une des grandes évidences. Il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché pour se dire, finalement, et de regarder l'assortiment et de constater qu'il y a, par rapport à des produits, une diversité qui n'amène rien en soi. Enfin, j'entends, oui, on a besoin de manger des produits laitiers, des légumes, etc. Mais a-t-on besoin de manger des fraises en hiver ? Ou 50 sortes de... Je reviens au yogourt, hein, mais...
Bien sûr, mais oui.
Les 50 sortes de yogourt avec... voilà, quoi. Pour moi, même le yogourt aux fruits n'est pas nécessaire. Hein, ouais, le yogourt naturel. Donc voilà.
Oui, tout à fait. On peut prendre des fruits de saison.
On
les,
peut très bien faire.
Voilà. Mais comment expliques-tu, toi, enfin, si tu as une explication, au moins une théorie, cette nécessité d'abondance, de surabondance? Parce que finalement, effectivement, comme tu le dis, il y a 17 produits à vaisselle différents qui, au bout du compte, ont quasiment les mêmes caractéristiques, je suppose.
Oui. Alors... Écoute, dans ma longue vie, j'ai entre autres travaillé comme petit cadre, on va dire, dans une des 2 grandes entreprises de distribution suisse. Je vous laisse deviner laquelle.
Alors, Coop ou Migros.
Voilà, exactement. Donc, par la pratique, je connais un peu et c'est simplement... Enfin, pour moi, cette énorme diversité est liée au système de... Enfin, je ne veux pas prendre des grands termes capitalistes et autres, mais... au fait que on doit chercher à avoir des paires de marché, donc à proposer des nouveaux produits qu'on imagine plaire à la clientèle. Et à partir de là, on met en place des produits, puis on essaye, puis on en met de plus en plus en place. Et le client est aussi à l'origine de ça, parce que pour défendre la grande distribution, ou les distributeurs de manière générale, c'est produits mis en rayon qui ne se vend pas, ces produits qui ne revient pas. Donc s'il n'y a pas quelqu'un pour acheter, voilà, même si on est influencé par la publicité, par toute une série de choses.
Alors, mais non, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre.
Non, c'est bon.
Alors, est-ce que justement ça, pourrait-on, selon toi, faire la critique de ceci ? Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait entendre en face de nous ? C'est oui, mais finalement, c'est un marché qui circulaire, qui permet de créer de l'emploi. Il y a effectivement les publicitaires, il faut fabriquer ces emballages, cette multitude de produits. finalement fait surgir une sorte de marché, même un truc absurde, une sorte de fuite en avant où les consommateurs sont toujours un petit peu en arrière à essayer de rattraper tout ça et à acheter de nouvelles choses. Et que finalement, du coup, comme ce choix est multiple, il faut faire preuve de moult astuces de la part de toutes ces personnes qui vendent ce produit-là, et que donc finalement ça déclenche des sortes de compétences ou des sortes de scénarii complexes pour pouvoir arriver à faire consommer ces gens-là. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ?
J'allais dire presque que c'est une évidence que la grande distribution, les producteurs et autres ont un certain génie, hein. Ils ont un génie, oui, il faut le dire, hein, pour trouver les produits qui plaisent, pour les présenter de manière plaisante, et puis, je ne vais pas dire duper, mais finir par faire croire aux gens que c'est important. Mais là, contrairement à ce que certains points de vue ont, moi je pense que nous avons tous, chaque fois, une responsabilité. Et chaque fois que j'achète des fraises au mois de janvier, j'ai une part de responsabilité, même si le distributeur et le producteur qui me les amènent ont aussi leur part de responsabilité. Mais si j'achète, ça veut dire que je vote avec mon argent pour les produits que je consomme. Oui. Donc voilà. Et si je ne mets pas mon argent dans ce produit-là, eh bien, si personne ne le met, ce produit disparaît des rayons. Ça, n'importe quel commerçant peut le dire. Donc, il y a... Voilà, quoi. Si les commerçants ne mettent pas de fraises, y a personne ne va les acheter. Mais si personne ne les achète, le commerçant ne met pas. Donc, c'est une dynamique. Hein, là.
Ouais. Alors, justement... Avant que l'on situe plus précisément ce que l'on peut mettre dans le mot friganisme, ce que ce mot cache, de quoi procède-t-il pour toi ? Il est venu de ce constat de surconsommation, ce constat de responsabilité propre, ainsi que tu viens de le dire ?
Oui, alors en partie, mais après c'est aussi un peu le fruit du hasard. Hein. Par hasard, j'entends les personnes que je connais. J'ai une cousine qui est un peu plus âgée que moi, donc... qui a les cheveux encore plus gris que moi, et qui, elle, pratique le friganisme sans le savoir depuis de très nombreuses années. Et puis, on en parlait, lors de réunions de famille et autres, on en parle. Puis elle me dit, si tu veux venir, tu viens, je te montre, etc. Du coup, je suis allé avec elle et je dois dire que de temps en temps, je vais avec elle. Soit dans des poubelles genevoises ou aussi dans des poubelles de France voisine où il y a un ou deux hypermarchés, même si ça commence à diminuer, c'est-à-dire que les poubelles sont de moins en moins mises à l'extérieur. Et voilà. Mais avec la constatation qu'il y a un nombre de produits tout à fait consommables qui ne posent aucun problème. Qui sont mis à la poubelle parce que les dates limites sont dépassées. Dates limites de vente et de préconisation de consommation. Et ça n'a... Comment dire ? Ce sont des produits parfaitement consommables. Mmh. Je pense aux produits laitiers, puisque j'ai travaillé dans la grande distribution. J'avais des collègues qui, eux, travaillaient dans les produits laitiers, qui, eux, étaient techniciens de produits laitiers, qui disaient qu'un yogourt, par exemple, nature plus que fruit, mais nature peut se consommer 2-3 mois après la date limite
de
consommation.
2-3 mois, c'est beaucoup.
Et que la seule chose, c'est que le goût va changer un peu. Il va peut-être devenir un peu plus acide et autre, mais il n'est pas toxique.
Ouais.
Sauf très rare exception, les produits laitiers, par naturel, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait des fruits dedans et des choses comme ça, lesquels peuvent moisir et deviennent mauvais, mais un produit yogourt, fromage et autres, le fromage, il sera corni, quoi. ou le camembert devient légèrement fort et difficile à consommer. Mais sinon, aucun danger.
Ouais. Alors, voilà, précisons. Qu'est-ce donc que le friganisme ? On a mentionné le
oui,
mot.
Oui, oui, oui.
On a mentionné le mot poubelle. Non, mais c'était fait exprès. Ouais. C'est bien, tu vois, quand on excite un petit peu la curiosité des chalands, comme ça.
Ouais.
Alors, on a parlé de poubelle et on a parlé d'aliments. Précisons, qu'est-ce donc que le friganisme ?
Alors, c'est la récupération d'aliments consommables dans les poubelles des magasins, on va dire des différents magasins, shops ou autres. Voilà.
Ouais.
Je pense que beaucoup de gens font ça depuis très longtemps. Un certain nombre de personnes le font ou le faisaient par nécessité, et d'autres par éthique, ce qui est mon cas, parce que voilà, quoi, je suis retraité, mais avec une retraite qui me permet largement de vivre, enfin donc je le fais absolument pas pour des besoins financiers. Savoir aussi peut-être préciser que c'est quand je fais ça avec cette cousine, elle en fait beaucoup plus que moi, et redistribue à différentes personnes, voilà, et amène ses produits.
Donc. Alors, est-ce qu'on pourrait, parce qu'effectivement, c'est consécutif de l'apparition des supermarchés, je suppose, est-ce que l'on pourrait comparer historiquement à la maraude, à ce type de pratique ? Est-ce qu'on peut comparer ça au friganisme ? Le fait de justement aller dans les marchés à l'époque, avant que les supermarchés n'existent, il y avait quelque chose qui préexistait avant ce qu'on appelle maintenant le friganisme, selon toi ?
Alors, écoute, c'est fort possible, mais j'en ai pas d'idée précise.
Ok.
Oui, on peut imaginer aussi que les gens qui allaient dans les champs récupérer les épis de blé, etc., voilà, qui restaient, voilà. Ouais. Ou dans les vignes, après la vendange, récupérer ce qui restait. À mon avis, ça procède un peu du même esprit.
Voilà, je te demandais ça parce que je suis en train d'essayer de retrouver le nom. Il y a, alors évidemment, la maraude, il y a des collectifs qui commencent à exister, de maraude, ici notamment à Genève, mais également à Lausanne. Hein, c'est quelque chose qui surgit comme ça de manière assez importante maintenant. Donc peut-être que ça devrait nous interroger. Et puis d'autant plus que, mais on va en parler juste après, que c'est encore une pratique illégale. Le friganisme est illégal, en tout cas en Suisse. Par contre, et on va le documenter tout à l'heure, mais Agnès Varda est une réalisatrice qui a, voilà, et dont le nom du film m'échappe. Je suis en train de le retrouver, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois.
Et c'est un film spécialement qui est en deux parties d'ailleurs.
Oui. Et puis la deuxième partie, voilà. Ouais, je vois. Je les ai vus il y a assez longtemps. Mais...
Les glaneurs et les glaneuses.
Voilà.
Ouais. Et ça, c'est bien qu'on le dise parce qu'effectivement, c'est des films qui sont fantastiques et qui justement préfigurent d'une certaine manière les frigates. Ouais.
Ça va que le fait de glaner, je ne sais pas si on dit glanage, mais on va dire, appelons ça le glanage, c'était ou c'est encore une pratique totalement acceptée et légale. Enfin, je veux dire, celui qui allait dans le champ de blé récupérer les quelques épis et qui éventuellement récupérait peut-être 10, 15, 20 kilos par hectare ou autre, avait tout à fait le droit et c'était absolument pas contesté.
Tout à fait. Ouais. Alors voilà, la situation actuellement, elle est qu'en Suisse, c'est illégal. C'est certainement légitime, mais c'est illégal. En France, par contre, ça n'est plus illégal après cette loi sur le fait que les supermarchés ne peuvent plus jeter les invendus, c'est cela ?
Alors honnêtement, pour l'aspect légal, je pourrais pas te répondre. Je sais qu'il y a cette loi qui a été passée, qui fait que une des conséquences, c'est effectivement qu'on a de moins en moins de poubelles mises à l'extérieur. Donc je pense à les deux ou trois supermarchés où je vais en France voisine. Traditionnellement, les gens, donc il y en a encore, sortaient les poubelles, souvent le dimanche à midi, qui sont ramassées le lundi matin, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc il y a des gens qui se servent, et quand j'y vais, ou quand on y va, il y a parfois personne, parfois deux, trois personnes, certains on connaît, généralement ça se passe bien, parfois certains se battent. Il y a un petit peu de tension pour savoir qui en aura le plus, etc. Dans ces cas-là, moi, je me retire parce que j'en ai aucun besoin et puis que les personnes à qui on distribue ne sont pas des personnes dans le besoin non plus, hein, même si ce sont des personnes ça rajoute peut-être un petit quelque chose ça met un petit peu de beurre dans les épinards.
Ouais. C'est-à-dire que implicitement, ce que tu dis là, c'est que parmi les personnes qui pratiquent le friganisme, il y a une dimension politique. De renoncement ou de distanciation du capitalisme.
Alors non,
de première nécessité, je veux dire seulement de.
Oui. Alors ça, tout à fait. Par contre, ce que je veux dire, des gens que je vois beaucoup, c'est plus ou moins par nécessité.
D'accord.
Okay. Ce sont pas du tout des gens qui meurent de faim, mais ce sont des gens qui disent, si je fais des économies sur la nourriture, j'aurai un peu plus d'argent à la fin du mois. Donc voilà.
Toi qui, on est venu au friganisme. Disons un petit peu plus tard, peut-être que la moyenne des gens qui viennent au friganisme, quelle réaction as-tu eue au sein de ta famille ? tes enfants ou voire tes petits-enfants, comment est-ce qu'eux ont réagi à cela?
Alors écoute, pour mes enfants, bah, c'est, je pense que ça leur a confirmé qu'ils avaient un père qui était peut-être parfois pas tout à fait dans les normes standards, quoi. Je m'aime bien que, étant cadre dans une entreprise genevoise, par ailleurs, voilà, ça leur confirmait ça. Pour mes petits-enfants, bah, je pense que les enfants prennent les choses comme elles sont. Donc on leur dit qu'on va, il suffit d'expliquer vaguement et eux ça leur pose aucun problème. Mes enfants, quand j'y vais, je leur en distribue, ils en prennent.
Ah bah très bien, donc
oui, bien sûr.
Ils font partie finalement du,
bien sûr,
du circuit parallèle.
Oui.
Mais donc vous en parlez quand même et puis pour eux c'est quelque chose... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus peut-être ce regard ultra disqualifiant.
Oui, totalement.
C'est ça que je veux dire. Peut-être que là il y a quelque chose qui tourne et c'est tant mieux.
Oui, c'est pas dans la mesure où il faut s'y reconnaître, où c'est pas une obligation, c'est pas pris comme une humiliation. Voilà.
Ouais.
Par contre, je sais pas pour des personnes qui feraient ça pour pouvoir manger, je sais pas eux comment elles le vivraient. Quoi. Donc voilà.
D'accord. Dis-moi, quel type de produits y trouve-t-on ?
Alors écoute, dans les endroits où je vais, ce sont beaucoup de produits laitiers. Qui par ailleurs, alors il y a aussi également des produits carnés, il y a du poisson, des choses comme ça. Le poisson, c'est vite pas consommable, hein, je veux dire, quand la date limite est passée. La viande, par contre, est souvent consommable. Légumes, assez peu, parce que les légumes, souvent, n'ont pas de la date limite de vente, donc ils sont jetés quand ils sont en mauvais état.
Gâtés,
ouais. Voilà, quand ils sont gâtés. Sauf parfois des... On va dire un filet d'orange où il y a deux oranges dedans abîmées, puis les autres sont en parfait état. Voilà, pour un magasin, trié, réemballé et autres, ça coûte beaucoup plus cher que le produit, donc ça se jette directement.
D'accord.
Ça,
Ce qui est décisif dans le choix de jeter ces aliments encore comestibles, c'est quoi? C'est la date de péremption pure. C'est pas l'aspect, par hasard, si une boîte de conserve tombe et qu'elle est donc...
Alors, il peut y avoir ça.
Il y a ça aussi. D'accord.
Ouais. Okay. Bah, alors, il arrive aussi qu'il y ait des produits abîmés que je dois voler, là je prends pas. Voilà, par contre, des yogourts qui sont. Un yogourt qui serait, mettons, de 500 grammes qui est abîmé, et ça je vais pas le prendre parce que voilà, il peut être souillé, il peut être. Donc, mais un fromage emballé, voilà, il n'y a aucune raison de. Enfin, il n'y a strictement aucun risque.
Mm-hmm. Ouais. Dis-moi, alors comment se passe une. J'allais dire une session. Une session de. Non, je dis ça parce qu'on a, on a par ailleurs, ça, pour, de nouveau pour la petite parenthèse pour les auditrices, auditeurs, mais on a un podcast très intéressant où on commençait à 5h ici en face du 10 bis. Alors, 5h du matin, déjà on a une voix un petit peu bizarre. Et puis on s'est rendu dans cet endroit pour pratiquer une opération frigane. Et voilà, ça veut dire que c'est tôt le matin quand même. Enfin, c'est pas rien. Alors, je me demandais, toi, dans les expériences que tu as pu mener, comment ça se passe?
Oui, alors écoute, ce que j'ai fait, hein, ce que je fais, c'est plutôt en soirée ou à midi le dimanche, quand dans les supermarchés en France voisine, où le supermarché ferme et il sort ses poubelles.
D'accord.
Bon, voilà. Souvent, d'ailleurs, quand il sort les poubelles, selon où on va, celui qui sort les poubelles, voire le gardien, qui ferme la grille après, la poubelle étant à l'extérieur, bah, il nous connaît, on dit salut, voilà quoi.
Il y a une sorte de négociation qui se fait de manière implicite.
C'est pas une négociation, non, ouais. Dans la mesure où les poubelles sont à l'extérieur. La seule chose, c'est que je pense que ces gens attendent qu'on laisse l'endroit propre, ce qui est assez compréhensible.
Ouais.
Puis après, bah, quand la grille est fermée, et bah, on ouvre les poubelles, on retire les sacs poubelles, parce que les produits sont généralement mis dans des sacs poubelles, et puis on ouvre et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Il y a souvent des... Enfin, je dis par rapport à nous, des quantités de produits laitiers, et je dois avouer que souvent, on fait du choix. On dit ça, ah ben non, j'aime pas, je prends pas, ça, oui, je prends, ça, je prends pas, etc. Il y a du bio à l'occasion, qui est toujours privilégié.
Bah tiens, il n'y a pas de raison. Hein. Mais penses-tu que... Voilà, on vit des temps troubles pour le moins. Penses-tu que la situation fasse que, à minima au moins, un dialogue puisse surgir, puisse s'instaurer entre certaines enseignes et puis ben voilà, une population qui va faire pression, qui s'organise pour dire écoutez, ces trucs qu'on jette, c'est plus possible. On s'aperçoit qu'on peut vraiment, au moins pour une part d'entre elles, les recycler. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à ça, on va vers ça, ou au contraire, est-ce qu'on criminalise d'une certaine manière, on illégalise de plus en plus ce type de pratique?
Alors, c'est possible qu'il y ait des contraintes nouvelles, hein, c'est-à-dire du style qui ne serait pas forcément directement axé contre ceux qui pratiquent le fréganisme, mais sous les prétextes d'hygiène, que la poubelle doit être gardée dans un local frais, ou que, etc., etc., et que finalement le local en question est fermé, donc on n'y a plus accès. Voilà, je le vois plutôt, les attaques contre le fréganisme, si on peut dire, de ce côté-là. Sous le côté aussi, si un jour quelqu'un est malade et que voilà, y a une association qui attaque le supermarché, etc. On est dans une société qui devient de plus en plus légale, qui de plus en plus où tout doit être parfait, où
tout est régenté,
tout est normalisé, réglementé, etc. Le danger, entendons-nous, je le vois plutôt de ce côté-là que dire le fréganisme est interdit parce que c'est pas bien, quoi. C'est
tout. D'accord.
Je vois plutôt des prétextes qui sont dans la logique de cette espèce de perfectionnement qu'on a. Savoir aussi que cette logique-là de perfectionnement est liée, surtout, et ça c'est mon expérience dans la grande distribution, les réglementations vont vers le contrôle d'un certain type de toxiques, on va dire essentiellement des bactéries. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait la moindre bactérie dans un yogourt. Par contre, s'il y a un peu de pesticides, de ci, de ça, c'est accepté dans un... Voilà. Pour toute une série de raisons. Une des raisons, c'est qu'on ne sait pas comment contrôler ces pesticides. Donc voilà. On fait ce qu'on sait faire plus que ce qu'on devrait faire.
Et tu es en train de nous dire que la plupart des produits qui sont en vente dans le commerce ne devraient pas y être pour des raisons justement d'hygiène remplies de pesticides qu'ils sont.
Alors, oui. Enfin, je pense que, comme beaucoup de gens, je regarde des émissions, enfin, entre autres à Bon Entendeur. C'était celui de la semaine dernière où je ne sais plus qui parlait des citrons, où on voyait un bon nombre de citrons avec des cocktails de pesticides à l'intérieur. D'autres non, hein, donc il faut aussi, aussi le dire, c'est pas tous.
Tout à fait, heureusement.
Mais voilà quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces pesticides étaient dans les normes légales. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les normes légales?
Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est compliqué. Hein.
Ouais.
Et ces sujets, bien entendu, à moult instrumentalisations. Écoute Pierre, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, juste une petite chanson, comme ça on prend notre souffle.
D'accord.
Et puis ensuite on fera une deuxième partie où je te demanderai un petit peu de commenter ces aventures, ces diverses aventures, puisque ça fait combien de temps que tu pratiques le fréganisme?
Ça fait 6, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça.
Voilà, donc tu as sûrement quelques anecdotes à nous dire, ou quelques rencontres, quelques aventures singulières qui se sont produites lors de quelques sessions. Voilà. On reviendra là-dessus, mais juste avant ça, on va s'écouter une chanson qu'on adore à Libre Radio, que l'on passe régulièrement. C'est Fabrizio De André, un anarchiste italien, un chanteur, une sorte de Léo Ferré italien, avec sa chanson, une parmi ses superbes chansons, qui s'appelle Il Bombarolo. Si tu souhaites interroger Pierre, ici en direct depuis le pavillon bleu, sache, chère auditrice et auditeur, que tu peux te loguer sur la page Facebook de l'émission. Tu vas dans Facebook, tu notes La Comète à la Banane, ou alors tu nous fais un mail à l'adresse suivante, info@libradio.org. Nous sommes derrière, nous sommes partout. On y va avec Fabrizio De André, Il Bombarolo.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son Bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore. C'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo, io son d'un altro avviso, son Bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, sganciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma il posto degno d'un Bombarolo. Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col Bombarolo.
Librairie Fahrenheit 451 et à la Bibliothèque du Peuple. Rencontres pyrotechniques et lectures incendiaires chevauchent la tempête qui vient et chemine l'utopie. Vient dire le fait et faire du sens, contradiction, contresens et contrefaçon. Les combustions spontanées ne respectent rien, attisent le feu et laissent brûler. Programme, infos et contacts sur www.libertaire.noblogs.org.
Ouais, c'est du jingle quand on est de mauvaise humeur. On fait des jingles un peu radicaux comme ça, mais c'est de la blague, c'est du deuxième degré. Bien entendu qu'on n'incendiera rien du tout, qu'on le fera de manière onirique, symbolique, des choses comme ça. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Pierre, en direct à l'occasion de la soirée de soutien à La Chope, un centre autogéré à Montréal. On dirait donc depuis le pavillon bleu, juste derrière la gare à Genève, 6, précisément 6 rue des Amis. Pour les personnes qui nous écoutent derrière leur laptop ou sur la DAB, venez, venez nous voir, venez nous parler. La radio est en direct et en public jusqu'à 21h. Et puis, il y a un tournoi de ping-pong qui a cours en ce moment, enflammé, deux tables qui sont incandescentes actuellement. Il y a un bar, il y a des crêpes. Tout ça, c'est en soutien d'une... c'est pour la cause, c'est une entrée à prix libre pour La Chope, centre culturel autogéré à Montréal. Et puis tout cela préfigure bien entendu deux concerts avec Maniaco Boîte à Rythme à partir environ de 20h et puis ensuite Call Black Horses ex Banzai pour la deuxième partie de la soirée. Alors Pierre, nous parlions friganisme et puis je te demandais en fin de première partie d'entretien depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le friganisme? Peux-tu nous le rappeler, s'il te plaît?
Alors, il doit y avoir 7-8 ans que j'ai commencé. Je n'ai pas de date précise, bien évidemment. voilà, quoi. Alors, comme je le disais, avec cette cousine qui en parlait, puis ça m'a fait tilt. Ouais. Je me suis dit, tiens, surtout travaillant dans la grande distribution, il y a quelque chose à faire.
Ouais. Est-ce qu'il y a un avant et un après friganisme? Je veux dire, un avant, voilà, avant, bah, tu le fais pas, on n'en a pas conscience, ou alors on en a conscience, mais on se dit, ouais, et puis un après, on se dit, finalement, c'est presque, ou c'est complètement un acte citoyen que de le faire.
Ah oui, alors, absolument. Oui, c'est comme il y a un certain nombre de choses où je pense que ce sont des actes citoyens. Et aller consommer des choses parfaitement consommables plutôt que de les laisser passer à la poubelle, c'est... Oui. C'est... je vous ai parlé de mon âge. Hein, donc j'ai eu mon enfance dans les années 50. C'était mes parents, enfin ma mère, mon père était décédé, mais... Mère, grand-mère et autres avaient vécu la guerre, même s'ils étaient en Suisse, mais enfin ils ont vécu des privations. C'était impensable de jeter la moindre parcelle de nourriture. Mmh. Le pain sec, eh ben, on faisait de la soupe au pain ou on faisait du pudding, c'est vite vu. Voilà quoi. On avait moins d'argent, la nourriture coûtait beaucoup plus cher que maintenant, je veux dire en termes de part de revenus. Donc c'était. Et voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que du fait de la facilité, du fait que la nourriture était extrêmement bon marché, même si beaucoup de gens pensent le contraire, mais enfin en termes de part de revenus, la nourriture coûte pratiquement rien si on compare avec d'autres choses, ben, ça pousse au gaspillage. Voilà.
Est-ce que ça, selon toi, ça interroge notre rapport, le fait de pratiquer le friganisme interroge notre rapport à la consommation, ouais. Cette espèce de consommation compulsive, d'où vient-elle selon toi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entrer, de consommer et presque de jeter juste derrière parce qu'on sait qu'on va consommer des choses qu'on n'aura même pas le temps de consommer finalement?
Alors, j'ai malheureusement pas de réponse, je vais te décevoir.
Non,
je pense que l'être humain a des caractéristiques qui font que. J'ai pas vraiment d'explication, mais si tu regardes dans d'autres cultures, partout, toujours, une part du prestige est liée au possédé. Alors le possédé, il y a mille manières de posséder. On peut très bien posséder en détruisant le matériel, hein, je pense au potlatch, enfin à différentes choses. Mais on sait que déjà rapidement en archéologie on voit apparaître des différenciations sociales, mais qui se marquent entre autres par la possession de choses. Alors c'est pas encore de la consommation telle qu'on la comprend, mais je pense que là il y a des caractéristiques humaines qui finalement amènent à ça, quoi, nous a abouti à ça.
Une forme de promotion sociale, alors au travers. Ouais. De ce que l'on a.
Une sensibilité.
Est-ce que là, on n'arrive pas à une confusion entre ce que l'on a et ce que l'on est, justement, au bout du compte? Ou est-ce que ces choses-là se confondent, selon toi?
Alors, oui. C'est évident que ce qu'on a fait en partie ce qu'on est.
Ouais.
C'est sûr. Et que c'est extrêmement difficile de garder une très grande estime de soi si on n'a rien.
Dans le dénuement, ouais.
Voilà.
Ça, c'est très civilisationnel, ouais. Penses-tu? Ce que je veux parler là, c'est que, est-ce qu'on a des exemples, toi qui as justement travaillé à la Fédération, qui a donc pu aller vers autrui, quand je dis l'autrui, c'est autrui, ouais. De loin. Récemment, je regardais un petit clip d'une forme de culture au Japon minimaliste, où le dénuement était justement une promotion sociale et à l'inverse, l'accumulation était suspecte. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as rencontré au travers de tes voyages, de tes rencontres ?
Honnêtement, c'est extrêmement rare. Je ne connais pas l'exemple que tu me donnes, mais c'est presque la négation, je veux dire, c'est presque la recherche du prestige par autre chose. On recherche le... Je m'avance peut-être un peu, mais on recherche le prestige en se distinguant des autres. C'est la distinction.
La singularité, d'accord.
Voilà. Donc comment est-ce que je me distingue? En ayant une grosse voiture, en ayant un objet en jade sur la poitrine ou en n'ayant rien. À l'inverse, ouais, ils ont tous quelque chose, mais moi, je suis différent, je suis plus prestigieux, j'ai rien. Pourquoi pas, je ne sais pas.
Ouais. Ouais. Non, bien sûr. Ouais. Bon, y a-t-il également, selon toi, toujours la composante de compensation ? On va, ce que je veux dire par là, c'est que j'entends bien et j'essaye de me représenter la promotion sociale. On achète un objet splendide, fait main, voilà, un collier de jade, un bijou en jade. Voilà. Je comprends et je trouve ça même assez joli, au bout du compte, en tout cas. Voilà. Mais ce qui est étonnant, parce que des fois c'est même presque morbide, c'est de cette forme de consommation, comment dire, oui, compulsive. J'ai l'impression qu'on porte à la bouche sans savoir, qu'on finit par devenir énorme et par exploser. J'ai l'impression qu'il y a une forme de compensation d'un vide qui est patent et qu'on doit remplir des vides d'une quelconque manière, et que celui de la consommation, qui est par ailleurs aussi le dernier peut-être instant où on a un contrôle total sur quelque chose. Est-ce que selon toi, il n'y a pas également ça aussi dans une société dans laquelle on vit, qui est compliquée, de plus en plus compliquée, avec des tensions terribles, je veux dire, notamment au travail aussi. Est-ce que ça te parle, ce que je viens de dire ?
Oui. Enfin, ouais. Non, je pense que la consommation a un côté compensation, bien sûr.
Tu penses, ouais.
Ouais. Ou la, ça permet de se sentir mieux pour une partie de la population. Je pense qu'on est, l'être humain est suffisamment complexe et nos sociétés aussi suffisamment nombreuses pour qu'on retrouve des gens qui compensent. On sait qu'aussi la nourriture, hein, pour prendre la nourriture, est un moyen de se déstresser.
C'est vrai.
Comme pour d'autres, se déstresse avec de l'alcool, avec de l'exercice physique, en allant courir après le boulot, en allant faire 10 km en courant, en allant faire du squash ou je ne sais pas quoi, etc. Donc il y a certainement une
corrélation.
Oui, bien sûr.
Ouais. Chocolat endorphine.
Alors après, là, semble-t-il, le chocolat.
Enfin, c'est mon...
On a tous les mêmes vices.
Alors dis-moi, cette année, pour... À la louche, hein, bien sûr, on n'est pas en train de... Voilà, ça veut dire un nombre incalculable de récupération de déchets alimentaires comestibles. Y a-t-il eu des rencontres qui vraiment ont changé quelque chose, en tout cas qui sont marquées dans ton esprit ?
Honnêtement, les gens que je rencontre sont en grande majorité des gens dans le besoin. Donc ça, voilà quoi. Et ça permet de voir aussi que le friganisme n'est pas encore rentré dans les mœurs. Hein, qu'il y a cette dimension dont on parlait tout à l'heure en aparté, d'un peu de stigmatisation. Donc voilà. Et les gens que je rencontre, sauf une ou deux exceptions, parce que finalement on est allé surtout à des endroits où un peu inhabituel, donc les gens qui vont là, ça c'est pas pour ça, mais enfin disons que ce sont des gens qui le font plus par nécessité et qui, je pense, s'ils avaient des revenus supérieurs, le feraient pas. Donc des gens pour qui c'est pas quelque chose, une attitude idéologique, on va dire, ou éthique. Par contre, c'est toujours intéressant de parler avec eux et oui, voilà.
Et puis des aventures, y a-t-il des situations comme ça un petit peu inextricables ou au contraire, est-ce que tu as plutôt été entouré de gens bienveillants ? Ce que je veux dire par là, c'est, est-ce qu'une fois voilà, un vigile s'est pointé, ou est-ce que la population, il nous est arrivé par ailleurs de nous faire une soupe à plein palais gratuite issue du friganisme, on est les municipaux qui nous ont collé une amende et on avait les marchands qui nous faisaient des cadeaux.
Ah ouais.
C'était assez sympa. Et le point assez amusant, tristement amusant, c'est que les policiers au début nous ont dit non mais ce sont les marchands qui se plaignent de votre présence. On leur a dit on va voir, on y va ensemble. Et on s'est retrouvé avec des gens qui nous ont fait des petites crêpes, des petits cadeaux qu'on a pu mettre à disposition des gens. C'était assez marrant. Alors voilà, est-ce que toi tu as rencontré comme ça des situations un petit peu absurdes ?
Alors non, pas vraiment. Parmi les anecdotes éventuelles, je me souviens de m'être trouvé donc à l'extérieur d'un supermarché, il y avait le parking était fermé, arrive une dame qui avait laissé sa voiture devant. Donc sa voiture, elle pourrait le récupérer le dimanche. C'était dimanche à midi, c'était bon pour lundi. Donc cette dame-là, elle ne savait pas quoi faire, elle nous pose deux, trois questions, elle va, puis elle revient, puis elle nous regarde, puis elle nous dit, Ah, oh, c'est quand même triste de savoir que des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Alors que, à mon avis, nous avons des revenus supérieurs à ce qu'elle avait. Ouais. J'ai aucune idée de ses revenus. Mmh. Mais, enfin, voilà. J'aurais voulu l'expliquer, mais ça aurait été, je pense, un peu long. En plus, elle était stressée parce qu'elle devait rentrer.
Mais ça, on dit long.
Mais, voilà. Ouais, voilà. Donc, oui, il y a cette image hein, derrière de récupérer quelque chose qui est censé être mauvais, enfin, etc., etc. Et associé à la misère.
Le statut du détritus.
Oui.
Répression, est-ce que de ton côté tu as subi? Non, de ce côté-là,
non, non, clairement non. Clairement non.
Écoute, deux petites questions encore, et puis ensuite on se quittera en proposant justement ce podcast sur le friganisme et répression, hein, dont en quelques mots, ça concerne le témoignage de jeunes hommes qui sont allés pratiquer le friganisme, c'était à Bienne, dans une COP, et qui ont été attrapés par la police, dénoncés par la COP, et qui ont reçu des amendes qui vont de 1500 à 2500 francs, de manière très arbitraire d'ailleurs. Alors voilà, on reviendra là-dessus parce qu'on va essayer de se mobiliser, de se solidariser par rapport à ça. Mais on ne comprend pas très bien le sens du truc, en tout cas. Ouais. Mais avant cela, je voulais encore te poser la question suivante. Est-ce que tu as pu assister à la composition ou la formation de groupes organisés pour pratiquer le friganisme autour de toi, ou ça reste quand même plutôt des épisodes, disons, de piraterie, de franc-tireurs, je veux dire?
Alors non, enfin oui, les personnes que j'ai vues qui étaient organisées étaient des Roms. Donc voilà quoi, ils arrivent, ils sont organisés en famille, ils prennent certaines choses, pas d'autres choses, etc. Ouais. Mais c'est pas dans un esprit de contestation, d'éthique différente et autres, voilà. Et, par contre, savoir que avec certains, pas avec tous. Mais voilà, quand on arrive, ils disent ah salut, ça va. Puis en attendant qu'ils sortent les poubelles, bah on parle un peu de la vie, etc. Et savoir que pour eux, c'est très difficile de comprendre qu'on ne fait pas ça par nécessité.
Ouais,
c'est, okay. Voilà, quoi. Je veux dire, mais alors si vous n'avez pas besoin, pourquoi?
Qu'est-ce que vous faites là?
Voilà. Donc, c'est... Et je pense qu'ils le vivent eux aussi, même s'ils ont l'habitude, puis que c'est une pratique communautaire, un peu comme une humiliation. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas que des personnes qui ne le font pas par nécessité le fassent.
Voilà. Tout à fait. Ok. Dernière petite question. Friggan, mode d'emploi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un, tes enfants ou tes petits-enfants, qui disent « Papa, on est avec mon amoureuse, avec mon pote, avec ci ou ça, on a envie de faire ça pour redistribuer ces produits ». Déjà, on bénéficie de nous, parce qu'on pense,
bien sûr.
Cette même logique qui t'habite. De quoi les prémunirais-tu? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire?
Oh, d'essayer, d'y aller.
Allez, comme
ouais,
ça,
ouais, brut. Non. Mais il faut regarder un peu l'extérieur des supermarchés ou des magasins, mais enfin, c'est un peu plus difficile dans les petits magasins, de regarder où sont les poubelles. Et puis, lorsque les poubelles sont sorties, bah, d'aller soulever le couvercle de la poubelle et de regarder ce qu'il y a dedans, et puis trier, prendre, etc. Et puis, le conseil de bien de chez nous, de tout laisser propre en ordre. si on veut pas.
Ça permet de revenir, de pouvoir revenir.
Absolument,
hein,
absolument. Je pense que les endroits où on va, si on laissait de la saleté. Rapidement on aurait plus la possibilité, et ça me paraît on ne peut plus normal de laisser les choses propres, enfin sans saleté à l'extérieur, les poubelles étant
complètement. Alors je pour aller dans ton sens, puisque nous-mêmes l'avons pratiqué de temps en temps, le pratiquons de temps en temps, effectivement pareil, on laisse l'endroit très propre, on essaie de négocier quand même au moins avec les personnes qui font le travail de sortir les poubelles. Des fois, certaines d'entre elles négocient un petit peu par défaut parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Donc, bien sûr qu'on fait attention à leur anonymat. Il y a des caméras, il faut faire attention à ça des fois dans les zones de débarquement. Savoir que certains même mettent ça dans une poubelle plutôt que dans toutes. Donc, ils nous réservent un petit peu le truc. Et que nous, effectivement, quand on prévient les personnes, on y va avec des gants. Et puis, ensuite, on nettoie les denrées. Parce que des fois, elles sont un peu souillées. Oui. Voilà, il peut y avoir un peu de lessive sur des emballages.
Hein, aussi. Revenir au yogourt, un yogourt qui a éclaté, qui salit les autres, qui sont en parfait état, mais qui sont souillés, quoi, à l'extérieur.
Ouais. Alors, voilà, pour les personnes qui tenteraient le friganisme, nous, on dit que c'est illégal, mais c'est légitime, donc il faut y aller.
Ouais.
Mais qu'effectivement, il vaut mieux s'habiller costaud et puis...
Oui, bien sûr.
Implicitement, je sais bien, mais j'en profite, tu vois, pour boum. Et puis voilà, les gants, c'est important. Nous, il nous a, voilà, c'est bien d'avoir des gants. Puis c'est bien de prévoir après un petit temps où les personnes qui ont friganisé, eh bien voilà, nettoient les trucs. Si nous, on les apprête même pour pouvoir en faire des soupes par la suite ou les redistribuer. Tu vas continuer ?
Bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter de faire du friganisme ?
Qu'il n'y ait plus de poubelles disponibles. Hein. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, si tout est fermé sous clé, je ne vais pas aller casser des portes pour ou qu'il y ait des cadenas sur les poubelles. Auquel cas, bah, voilà, quoi. À la limite, si j'étais dans la misère et ayant faim, oui, je casserais les cadenas, mais là, dans ma situation, je ne le ferais pas.
Ouais. Ouais. C'est la limite.
En étant scandalisé, enfin je veux dire, disant voilà, ouais. c'est un pas de plus dans notre société qui a des côtés totalement inacceptables.
Alors j'aimerais qu'on se laisse peut-être en lançant un appel qui est celui de un appel à tous les friganistes expérimentés, les néophytes et ceux qui ont envie de s'y mettre, de se retrouver, de se réunir peut-être. Alors nous, on pourrait faire office de coordination, en tout cas de mise en relation les uns et les autres, pour pouvoir se solidariser peut-être déjà, pour qu'à l'égal de la France, on tente d'avoir une loi qui empêche les supermarchés de jeter des denrées à la poubelle, et pourquoi pas justement d'organiser d'une certaine manière, une forme de récupération de déchets, même si effectivement partage le fait déjà, mais on s'aperçoit qu'il y a, malgré que le partage existe, énormément de détritus alimentaires comestibles.
Totalement comestibles.
Ouais. Je crois qu'on a fait le tour, Père, à moins qu'il y ait une question que je ne t'ai pas posée, à laquelle tu aurais souhaité répondre.
Absolument pas. Tu as posé toutes les bonnes questions.
Je te remercie. Écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi. Pierre, tu es notamment membre du ROC Genève, le réseau d'objecteurs de croissance, qui est très actif, hein, avec notamment des réunions publiques une fois par mois.
Alors, une fois par mois, on se réunit généralement le 8 de chaque mois. Pas toujours, là, en février, ça sera le 6. Et ce sont des réunions qui ont lieu chez une personne et qui sont ouvertes à tout le monde. Et savoir que le ROC est une organisation très, très informelle. Donc, il n'y a pas de comité, il n'y a pas d'organisateur précis, de responsable. Donc, c'est très, on va dire, libertaire.
Complètement. Et puis, qui s'est rendu coupable d'actions typiquement dernièrement de recouvrement de
publicité
sur les trams, action magnifique, d'ailleurs très bien menée, hein, puisque tout était décollable, la colle décollable, tout ça est très bien organisé.
C'était pensé et voulu.
Bah, très, très bien, et du coup on salue. Ouais. Et puis il y a également le journal Moins qui est quand même un sacré boulot, un journal pointu, très bien fait.
Effectivement, qui lui est plutôt produit par des Vaudois. Voilà, c'est essentiellement eux qui produisent ça, mais on y collabore de manière indirecte et entre autres à la diffusion à Genève, sur Genève de ce journal.
On salue parmi les colporteurs Fulzo qui était parmi nous tout à l'heure et qui souvent
c'est notre grand distributeur.
En relation. Bonne continuation à toi. Le ROC, si jamais pour les personnes qui souhaitent se renseigner, il y a un site internet.
Où vous trouvez toutes les informations.
Voilà, réseau d'objecteurs de croissance. Ouais. Pierre, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon week-end.
C'était
un
plaisir.
À une prochaine fois.
Bonne chance à vous.
Merci. Allez, ciao, ciao. Alors, nous sommes donc en direct jusqu'à 21h à suivre un petit entretien musical. Là, plutôt, nous parlerons avec Romain, ex-Banzai, et puis actuellement Call Black Horses. Mais avant cela, une petite pause musicale. D'abord, un petit titre. Et puis juste derrière, le podcast concernant friganisme et répression, qui est donc le fruit de cet entretien que l'on avait opéré lors du festival Nemesis, le peuple versus le WEF, ici à Genève, en compagnie d'un jeune homme dont on taira le nom, il dit un autre prénom, un prénom d'emprunt à l'antenne, et qui a fait cette expérience frigane et répressive, puisque lui et son groupe ont été condamnés respectivement à 1500 jusqu'à 2500 francs d'amende. C'est à découvrir dans quelques minutes sur Libre Radio. On y va, à toutes.
Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule, Marc Belchine.